Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, poursuite des violences en zone anglophone. Au moins 5 membres des forces de sécurité, 4 gendarmes et un policier y ont été tués dimanche. Les 4 gendarmes ont perdu la vie et plusieurs de leurs collègues ont été blessés à Essou, village de la province du Nord-Ouest, près de la ville de Roum, suite à l'attaque d'une brigade locale de gendarmerie par des sécessionnistes dimanche matin. Quant au policier décédé, il a été assassiné à son domicile par des inconnus dans la localité de Moutenguéné, près de Boya, chef-lieu de la province du Sud-Ouest, selon des témoins. La sécurité dans les deux régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée depuis fin 2017. Et les combats et les attaques de groupes armés contre les forces de sécurité y sont devenus presque quotidiens. Ce conflit, ainsi que la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord du pays, risque de perturber le scrutin présidentiel prévu le 7 octobre, où le président Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, est candidat à un 7e mandat consécutif. En République démocratique du Congo, tir nourri la nuit dernière ainsi que dans la matinée de ce lundi à Lubumbashi, la grande métropole du sud-est du pays, d'après notre correspondant local Narval Mabila. Des tirs qui visent, selon lui, à empêcher les gens de manifester contre le refus des autorités de laisser rentrer en RDC l'ancien gouverneur et candidat à la présidentielle de décembre, Moïse Katumbi. La tension reste perceptible aujourd'hui à Lubumbashi, notamment dans les quartiers Tabakongo, Kalibuka et Apollo. La police congolaise a placé plusieurs checkpoints à l'entrée de la commune de Kenya, avec contrôle des pièces d'identité pour accéder au centre-ville du chef-lieu du Haut-Katanga. Présidentiel au Mali maintenant, les 3 principaux opposants ont saisi la justice pour bourrage d'urnes, violation de la loi électorale et irrégularité. Ils accusent le camp du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle. La Cour constitutionnelle doit proclamer officiellement mercredi les résultats du premier tour pour que démarre la campagne du second tour qui se tient le 12 août et pour lequel Ibrahim Boubacar Keïta est donné grand favori. En dépit des contestations, le premier ministre Soumaïla Luboubey Maïga se penche sur l'organisation du second tour avec en toile de fond le problème des bureaux de vote où le premier tour a été perturbé. On l'écoute.
Quand on parle de 700 et quelques bureaux de vote, ce n'est pas 700 centres, parce qu'il y a souvent beaucoup de bureaux dans un seul centre. Donc nous avons analysé les raisons qui ont fait que le vote n'a pas été possible. C'est souvent lié à l'impraticabilité, c'est souvent lié aux menaces qui ont été reçues par les populations. Il y a eu des attaques contre des bureaux, soit avant, soit après, avec enlèvement de matériel. Et donc nous allons réadapter notre dispositif de manière à pouvoir contenir éventuellement ces actions-là.
Le Premier ministre malien Soumaïla Luboubey Maïga à Bamako, au Mali. Crise au Soudan du Sud, nouvelle donne politique dans le pays après la signature par le gouvernement et les rebelles sud-soudanais d'un accord de partage du pouvoir dimanche à Khartoum au Soudan. L'initiative vise à mettre fin à la guerre civile meurtrière qui ravage le plus jeune pays du monde, Jean-Roger Bion.
En vertu de l'accord, le chef rebelle Riek Machar va intégrer un gouvernement d'unité nationale et devenir premier vice-président. L'accord a été signé hier dimanche en présence du président soudanais Omar El-Béchir et de ses homologues du Kenya, d'Ouganda et de Djibouti, ainsi que de plusieurs diplomates étrangers. Le président Salva Kiir et son rival Riek Machar ont déjà convenu d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Les deux camps avaient signé le 25 juillet un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Pour parachever ce processus, les négociations vont se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Après, les belligérants auront 3 mois pour former un gouvernement de transition pour une durée de 6 mois. Il sera composé de 35 ministres, dont 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Un accord similaire signé en 2015 avait été violé après une bataille meurtrière qui avait obligé Riek Machar à partir en exil.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la police a entamé des discussions avec les parents des 13 jeunes morts dans un commissariat de la capitale. Dans un premier temps, les autorités ont remis une somme de 2 millions de francs CFA aux familles pour organiser les funérailles. Le point avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Après une première réunion avec le ministre de l'Intérieur Raymond Boulou, c'est le samedi dernier que chaque famille est passée à la police prendre la somme de 2 millions de francs CFA. Cet argent servira aux obsèques. Après plusieurs hésitations, certaines familles ont estimé que les autorités étaient de bonne foi et qu'il fallait leur faire confiance pour le reste du processus. Casimir Ngakala, un des parents de victimes.
Il s'agit bien de leur responsabilité, que c'était leurs éléments qui étaient sur le terrain et que ça a été commis chez eux. Bon, on va vers un consensus, mais on aurait voulu que cela se passe de façon collective, hein, que tous ceux qui sont concernés injustement, dont les enfants ont été injustement traités, qu'ils prennent l'organisation des obsèques de façon collective.
Mais d'autres familles redoutent la force écrasante de l'État dans les discussions qui les lient désormais. Seule, elle n'arriverait pas à bien négocier, prévient le représentant de la famille Kihindou.
Pour que ce que le gouvernement a dit, ce que le ministre a dit, soit pris en cause, il faut qu'il y ait un organisme à notre appui. Ça serait seulement vague-vague. Ouais, ils ont dit, hey, le gouvernement du Congo, il parle. S'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de les agiter là, il n'y a rien. On ne leur a pas sorti en cause du bébé noir, mais ils sont morts dans les geôles du PSV Chakona. Ils en sont conscients.
Ces familles ont jusqu'ici été accompagnées par une plateforme d'ONG qui ont dénoncé le drame de Chakona du nom du commissariat de police où 13 jeunes ont trouvé la mort le 23 juillet dernier. À l'instar de Jean-Pierre Koubanza de la Maison Commune, les responsables de ces organisations attirent l'attention des familles sur l'argent.
Alors que le souhait de ce collectif était que l'État prenne en charge ces obsèques, qu'ils fassent de façon nationale comme ils ont l'habitude de faire, c'est ce que les parents ont dit. Parce que donner de l'argent à une famille, je ne sais combien, c'est aussi mettre les gens en danger.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, une autre ONG locale, exige l'autopsie sur tous les corps identifiés. Au gouvernement, l'heure est à la prudence après les premières déclarations contradictoires. Interpellé devant le Sénat, le ministre de l'Intérieur a affirmé ne pas en dire long avant l'aboutissement des enquêtes en cours.
16 ont été placés en garde vue au commissariat du quartier Chakona, où 13... effectivement, d'entre eux ont trouvé la mort. Et au stade actuel de l'enquête, on ne peut pas dire plus parce que le procureur enquête et l'inspection générale de la police nationale également est en train d'enquêter.
Avec les 2 millions reçus des autorités, plusieurs familles comptent organiser les funérailles de leurs enfants cette semaine et sans autopsie. Arsène Séverin, Brazzaville, VO Afrique.
Corne de l'Afrique, en Éthiopie, des violences sont signalées dans la région Somalie, dans l'est du pays. Les scènes de pillage, d'émeutes et d'attaques à caractère ethnique y ont continué hier dimanche. Et le gouvernement a déployé des troupes sur place. Eric Maniga-Kiza.
Les raisons exactes de ces violences qui ont débuté samedi ne sont pas claires. L'arrivée des troupes fédérales semble avoir provoqué la colère de la population somalie, déclenchant des émeutes et violences ethniques à Djidjiga et dans d'autres villes de la région. D'après un habitant, des émeutiers vidaient les coffres des banques et mettaient le feu à des églises dans cette région à majorité musulmane. Dans la soirée, le ministère éthiopien de la Défense avait publié un communiqué stipulant qu'il prendrait les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans la région. Le pays est divisé en 9 régions administratives selon un système dit de fédéralisme ethnique, censé donner un degré d'autonomie aux différentes ethnies, mais accusé dans les faits d'exacerber des sentiments d'appartenance et d'ethniciser d'anciens différents fonciers. La région Somalie est la deuxième plus grande d'Éthiopie après la région Oromo, mais aussi la plus instable. En 2017, des affrontements entre membres des ethnies Oromo et Somalie avaient fait plus d'un million de déplacés.
Actualité hors d'Afrique pour terminer. En Iran, la population se prépare ce lundi au retour des sanctions américaines sur fond de manifestations contre les difficultés économiques et la corruption qui fragilise le gouvernement du président Hassan Rouhani. Ces derniers jours, plusieurs villes ont été le théâtre de manifestations sporadiques et de grèves. La pression s'accentue à la veille du rétablissement des sanctions économiques décidées par le président Donald Trump après le retrait unilatéral unilatérale de Washington de l'accord historique sur le nucléaire iranien conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a promis que les États-Unis feraient respecter les sanctions dont la première vague entrera en vigueur mardi à 4h01, temps universel. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Restez à l'écoute de VOA Afrique.